Alors, chers auditrices sur l'ITER, l'interview de cette semaine sera au sujet de l'état d'urgence. Alors, bien sûr, je me suis rendu compte pendant cette écriture que ma chronique précédente traitant de la notion du risque et de hasard était très bien convenue. Cependant, heureusement pour moi, il y a de nombreuses choses à dire et à redire au sujet de l'état d'urgence. En fait, cet état d'urgence, il m'étonne beaucoup. Et ce qui m'a même encore plus étonné lors de ma réflexion, c'est que ce qui cloche dans l'état d'urgence ressemble beaucoup, beaucoup à ce qui cloche dans un autre sujet. Et cet autre sujet, c'est notre crise climatique. Alors l'état d'urgence, il s'est immiscé partout, il provoque en nous des réactions multiples, l'homme politique y est contraint, l'état d'urgence est en fait celui de nos émotions. Il sème en nous le doute et la méfiance. Le climat provoque, lui, une résilience générale. Le doute et la méfiance sont cette fois-ci dirigés vers les scientifiques. Alors les scientifiques, pourtant, ils sont tout à fait unanimes, et ce depuis des années, quant au fait que le climat change brutalement, dangereusement et à nos périls. Bien que les marchands de doute ne cessent d'inventer de nouveaux produits usurpateurs du savoir, notre entendement devrait entendre le son des vents à venir. Il se présente à moi une étrange dissonance. D'une part, notre confiance envers les outils technologiques fondés sur le savoir scientifique s'accroît, qui aujourd'hui par exemple refuserait d'utiliser un téléphone portable, et d'autre part, et de façon paradoxale, notre méfiance envers la connaissance scientifique elle-même est tout autant accrue. Comment se fait-il que la science soit si isolée, recroquevillée, alors qu'elle est au plus proche de nous au quotidien. Pour traiter cette crise de confiance en le petit temps qui m'est donné, je ne vais pas me contenter de lister des savoirs scientifiques afin de montrer que nous savons des choses. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas tellement de ce que nous savons, mais de notre rapport à ce que nous savons. C'est souvent ce rapport au savoir qui est difficile. Dans le cas du climat, c'est notre rapport au savoir scientifique. Dans le cas de l'état d'urgence, c'est notre rapport au risque terroriste qui est déjà en lui-même quelque chose de difficile à appréhender. Une question difficile est en fait la suivante. La science a-t-elle failli à son objectif de diffusion des savoirs? Ce qui est certain, c'est que des efforts sont fournis. La semaine prochaine, par exemple, il y aura la fête de la science qui sera célébrée dans de nombreux lieux scientifiques où vous pourrez aller à la rencontre de chercheurs et prendre connaissance de ce qui se fait dans la science aujourd'hui même. Malheureusement, ces activités sont encore anecdotiques. Même si les scientifiques ne s'en emparent pas, à qui les laisse-t-on? C'est bien là le problème que j'aimerais soulever et que vous ayez à l'esprit. Si ce n'est pas le scientifique qui communique sa recherche, alors la parole scientifique, normalement vulgarisée, devient simplement vulgaire. Elle devient vide de contenu scientifique, vide de vérité. Quel rapport avec l'état d'urgence, me direz-vous? Eh bien, regardez comment la figure savante s'est elle aussi éclipsée avec l'état d'urgence. Que savons-nous de l'état d'urgence? Tout d'abord qu'il n'y a plus urgence. Quoi qu'on en pense, nous vivons notre quotidien depuis maintenant près de 2 ans, alors même que nous avons inscrit notre quotidien dans une politique urgentiste. Mais alors, que savons-nous de l'état d'urgence en tant qu'action? Presque rien. Nous ne savons rien de l'efficacité. Et j'entends par là la mesure précise de la différence faite par les mesures exceptionnelles, que cette différence soit positive ou négative. Combien ont souffert de ces mesures? L'état d'urgence est-il globalement une protection ou une offense à nos libertés? Ce sont des questions de savoir. Pourquoi ne savons-nous pas? Où sont donc passés les savants de ces questions? Ces questions ne sont pas traitées parce que la figure des savants a largement cédé sa place. L'état d'urgence fait régence. Rendons à notre République ce qui lui appartient. La République, dans son étymologie, ça signifie la chose publique. Mais la chose publique n'est pas uniquement politique, elle est aussi savante. Il n'y a plus de citoyenneté dans un pays où le savoir scientifique, le savoir politique sont absentés, effacés, usurpés. Faisons état de la nécessité, et non de l'urgence, de nous protéger face à l'obscurantisme, de quelque nature qu'il soit.
L'état d'urgence fait régence. Le mot est lancé et il sera dans nos têtes tout au long de cette émission et qui sera effectivement particulièrement consacré à cette question de l'état d'urgence. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette chronique sur la sécurité irrationnelle et ce problème avec le savoir.
Merci, Mathieu.
Allez, on passe à Expo Tableau Dodo. On y va.
J'attendrai pas le saint
d'Inglin. Je fais des sculptures en mode
saint-dinglin.
C'est vrai que je suis pas trop immonde, la Joconde. La Joconde.
Raphaël nous parlait tout à l'heure de forme d'obscurantisme. Eh bien, avec la nuit blanche, Chloé, c'est tout le contraire. On a des étoiles dans les yeux pendant toute la nuit. Et on y voit clair comme à travers de l'eau de roche.
Exactement. Alors, c'est l'heure où toutes créatures sont distinctement dans les cieux, dans la grande étendue obscure, le grand être mystérieux. Voici un extrait du poème « Nuit » de Victor Hugo pour introduire cette chronique sur la nuit blanche de Paris. Chers auditeurs, le spectacle du mois d'octobre s'entame délicatement. Les rideaux s'ouvrent sur l'automne et le premier acte annonce un ballet culturel. Samedi, les habitants voyageurs amérantes de Paris se métamorphoseront. La foule parisienne deviendra chouettulotte, lynx et autres animaux nocturnes. Les petites têtes curieuses se faufileront au milieu de multiples installations artistiques. Les scènes de ce spectacle seront variées, remplies et pleines de surprises. La magie des artistes émerveillera la capitale. Faire œuvre commune, voici le thème de la Nuit Blanche de cette année proposé par la directrice Charlotte Loubard. Il s'agira de célébrer le collectif en ces temps de repli sur soi et de crispation identitaire. Gratuite et ouverte au grand public, la Nuit Blanche accueille une panoplie d'œuvres dans l'espace public et en plein air. De grandes institutions participeront activement au parcours. Sous la canopée des Halles, le chorégraphe Olivier Dubois mettra en scène 300 danseurs amateurs. Et sur le parvis de l'hôtel de ville, le collectif russe Stodola vous invitera à un voyage en conteneur dans l'histoire des révolutions. Mais pas de panique, je vais tout vous expliquer pour le déroulement de cette nuit afin que vous ne soyez pas perdus, parce que c'est un peu compliqué et la Nuit Blanche en fait se présente sous deux grands angles. Il y a le in et le off. En fait, le IN, ce sont des projets d'artistes émergents ou de renom, français, étrangers, invités par la directrice artistique de Nuit Blanche. Et en fait, là, il y aura une trentaine de projets IN qui est concentré cette année au nord et au centre de Paris.